Bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter encore une fois, je ne sais pas si vous me connaissez, vous tous. Alors, je suis le papa de Keila, le papa de Keren. Je suis pasteur de l'église réformée évangélique à la retraite. Donc, cela me permet de temps en temps de voilà, visiter une église, de partager et assurer un culte. Et donc voilà, ce matin, l'occasion s'est présentée et je suis heureux et content d'être là parmi vous, de partager ce culte ensemble. Alors, nous allons lire deux textes de la Bible. Le premier de l'Ancien Testament et après le deuxième dans le Nouveau Testament. Deux textes très, très connus, vous allez voir. Le premier, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Luc chapitre 24, à partir verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus, parut vouloir aller plus loin. Mais les deux disciples le pressèrent en disant, « Maître, reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Ah, quelle joie, quelle merveille de savoir que tu es là. Oui, tu es là, tu es bien là. C'est vrai que nous ne pouvons pas te voir avec nos yeux charnels, mais nous pouvons te voir avec nos yeux de l'âme, de notre âme. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est cela qui fait la richesse de ce culte. Tu es là, tu es bien là. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Maintenant, nous qui sommes à l'écoute de ta parole, nous voulons, Seigneur, vraiment laisser cette parole travailler en nous. Tu sais combien nous avons besoin, nous tous ici dans cette salle, d'écouter ta parole, de laisser cette parole faire ce qu'elle a à faire en nous. Seigneur, prends pitié de nous, ouvre nos yeux. Nous voulons te voir, contempler ta bonté, contempler ta présence, contempler tes merveilles, le plan merveilleux que tu as préparé pour chacun de nous. Prends pitié, Seigneur, maintenant parle, glorifie ton nom. Oui, Seigneur, c'est notre prière dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Dans la Bible, nous lisons l'histoire de quatre personnages dont cette expression « leurs yeux s'ouvrirent » fut une réalité. C'est-à-dire, leurs yeux s'ouvrirent d'une façon spectaculaire. Désormais, ils voyaient ce qu'ils ne voyaient pas auparavant. C'est l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est aussi l'histoire des deux disciples de Jésus dans le chemin d'Emmaüs. Dans la première histoire, il est dit que nos pères, Adam et Ève, en mangeant le fruit défendu par Dieu, leurs yeux s'ouvrirent. Le verset 6 et 7 du chapitre 3 de Genèse dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. En mangeant du fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent malheureusement pour le péché. Jusqu'à présent, ils ne connaissaient pas le péché. Ils étaient créés saints, parfaits. Jusqu'à présent, ils ne connaissaient pas le péché. En désobéissant l'Éternel, eux, Adam et Ève, l'être humain, perd sa sainteté, son état d'innocence et compromet sérieusement sa relation avec le Créateur. Leurs yeux et ceux de toute l'humanité s'ouvrirent pour le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, « Car tous ont péché et sont privés, séparés de la gloire de Dieu. » Le jour où leurs yeux s'ouvrirent pour le péché, leurs pieds ont affranchi la première marche vers le fond de la fosse. Le premier mensonge, la première méchanceté, le premier adultère, le premier vol, le premier meurtre. En conséquence, le résultat fut catastrophique. Dans un processus autodestructif et sans frein, l'être humain se dirige vers la ruine totale. La Bible dit « un abîme appelle un autre abîme ». La société actuelle est une preuve de la décadence humaine. Il suffit de regarder les infos aujourd'hui pour se rendre compte de la cruauté humaine. Qui n'a pas entendu parler de l'affaire Fiona, d'une maman qui tue sa propre fille. En ouvrant leurs yeux pour le péché, Adam et Ève ont fait du mal à eux et à toute leur descendance, et aussi à la création tout entière. L'apôtre Paul, raisonnant sur le péché et ses conséquences désastreuses, y dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En ouvrant leurs yeux pour le péché, Adam et Ève ont tellement fait du mal à eux et à leur descendance que l'apôtre Paul dira, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble. Ils sont pervertis. L'action d'ouvrir les yeux dans le jardin d'Éden a fait aussi que la colère de Dieu s'abatte sur l'humanité tout entière en détruisant un grand nombre, sauf 8 lors du déluge. L'action d'ouvrir les yeux dans le jardin d'Éden a provoqué également la colère de Dieu sur la méchanceté humaine en détruisant les villes de Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, comme dans le passé, la situation du monde est chaotique et la nature continue à soupirer et à souffrir les douleurs de l'enfantement. En plus, en ouvrant leurs yeux pour le péché, Adam et Ève connurent la mort. La mort est spirituelle sous le coup, c'est-à-dire plus de relation avec Dieu, et la mort physique plus tard. Tous les deux, conséquences tragiques de leur acte. Mais, que j'aime ce petit mot dans la Bible, mais, un petit mot, mais qui peut tout changer, mais alléluia, l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de l'humanité, mon histoire, votre histoire ne finit pas là. Alléluia. Avec notre Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une deuxième chance. La Bible dit, écoutez bien, car le salaire du péché est la mort. Certes, car le salaire du péché est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. Mais, ouais, le petit mot, mais le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ah, quelle parole merveilleuse. Ah, quel Dieu merveilleux. Mais le don gratuit de Dieu. Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont désobéi. Et nous tous aussi. Mais la grâce, l'amour de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Non, notre histoire, l'histoire de l'être humain ne termine pas là. Il y a une suite merveilleuse. Un deuxième, ouvrir les yeux. Maintenant, cette fois-ci, l'expérience extraordinaire laquelle doit vivre chacun de nous, elle se passe dans un village qui s'appelle Emmaüs, situé à 10 km de Jérusalem. Le même jour où Pierre et quelques femmes racontaient qu'ils avaient vu le tombeau de Jésus vide, deux de ses disciples, dont l'un d'eux s'appelait Cléopas, se dirigeaient vers Emmaüs. Ces deux disciples, apparemment, étaient proches de Jésus. Ils ont vécu ensemble au moins 3 ans. Ils étaient témoins oculaires des miracles de Jésus. À la seule parole de Jésus, ils ont vu les aveugles voir. À la seule parole de Jésus, ils ont vu les muets parler. À la seule parole de Jésus, ils ont vu les paralytiques marcher et les morts ressusciter. Ils étaient là, présents, quand Jésus avait dit « Roulez la pierre !» Et puis il a dit « Lazare, sors !» Ils étaient là. Ils ont vu, Lazare était mort déjà, depuis 4 jours, ça sentait mal déjà. Et Jésus dit une parole, Lazare sort, et Lazare sort. Ces deux disciples étaient là, ils ont vu ça, ils ont vécu ça, ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont vu la puissance de Jésus, ils ont tout vu. Mais aujourd'hui, 3 jours après sa mort, c'est vrai que quelques-uns affirmaient l'avoir vu. Cependant, d'après Luc, leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes. En chemin vers Emmaüs, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem pendant ces jours, juste 3 jours. Pendant qu'ils discutaient, un troisième personnage apparaît. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ah, quel sauveur merveilleux nous possédons! Ah, qu'il nous aime, ah, qu'il vous aime! Il est patient et plein d'amour, plein de grâce. Et il prend du temps avec vous. Il s'approche de vous pour vous écouter, pour voir, écouter vos problèmes, voir vos problèmes, vos difficultés, vos doutes. Il s'approche, il prend le temps, il fait route avec vous. Il fait route avec vous. Mais, dit le texte, leurs yeux, les yeux des disciples, de deux disciples, étaient retenus, appesantis, de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus parce que leurs yeux étaient appesantis, retenus. Après un moment de discussion, ils s'approchèrent du village où ils allaient. Et Jésus, il fit comme s'il allait plus loin. Alors les deux disciples, ils commençaient à sentir quelque chose déjà dans leur cœur. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Il y a quelque chose qui brûle là. Alors les deux disciples le forcèrent, disant, « Seigneur, demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain, il le bénit, et l'ayant rompu, il leur distribua. À ce moment-là, un déclic, à ce moment-là, leurs yeux furent ouverts. Et ils reconnurent que c'était Jésus. Mais lui devient invisible et disparaît devant eux. Et leurs yeux furent ouverts. Alléluia! Quatre vies, vous voyez? Quatre destins différents. Les deux premières personnes, vie, Adam et Ève, ont ouvert leurs yeux vers le péché qui les a conduits à la mort éternelle. Les deux autres, celles des disciples d'Emmaüs, leurs yeux aussi s'ouvrirent, mais cette fois-ci vers le Christ ressuscité, vers la vie éternelle. La deuxième expérience, celle des disciples d'Emmaüs, corrige la première. Et elle a la manifestation de la grâce de Dieu. Elle arrive d'une manière simple, au moment de la bénédiction où le pain fut rompu. Vous savez, l'action de rompre le pain ici par Jésus a une signification profonde. Le pain rompu est l'image de Jésus-Christ qui était donné pour nous à la croix. Jésus nous sauve, Jésus nous transforme, il ouvre nos yeux à travers son sacrifice à la croix et sa résurrection au troisième jour. Leurs yeux s'ouvrirent et c'est exactement ce moment-là que les disciples d'Emmaüs reconnurent Jésus. Quand le pain fut rompu, leurs yeux s'ouvrirent vers le Christ ressuscité et leurs pieds montèrent, la première marche vers la vie éternelle. La première sensation de paix, la première sensation de joie, d'assurance, les premières paroles vraies, les premiers désirs sincères, le premier témoignage. Vous savez, des fois, notre vie ressemble à celle des deux disciples d'Emmaüs. Nous avons vu les miracles de Jésus. Nous avons été témoins des miracles de Jésus dans notre vie, dans la vie des autres. Nous confessons le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous essayons de vivre un chrétien. Mais peut-être, comme les deux disciples d'Emmaüs, nous traversons aujourd'hui le chemin d'Emmaüs. Le chemin de nos intérêts personnels, le chemin de la fuite envers l'appel de Dieu, envers l'engagement dans l'Église, envers la communion fraternelle. Il nous faut aussi, nous aussi, passer par cette expérience. Il faut ouvrir nos yeux, que Dieu puisse ouvrir nos yeux ce matin. Ouvrir les yeux, c'est être transformé de gloire en gloire. C'est récupérer des dégâts provoqués par la désobéissance dans le jardin d'Éden. Ouvrir les yeux, c'est laisser le vieil homme de côté et laisser Christ vivre en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a compris cela, à un moment donné de sa vie, il a dit « Ce n'est plus moi qui vis ». Quand il a ouvert les yeux, quand il a pu contempler la beauté de Dieu, la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu, alors il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, ouvrir les yeux, c'est laisser le vieil homme de côté, laisser Christ vivre en nous. Ouvrir les yeux, c'est se réveiller du sommeil spirituel et s'approprier de la vraie vie. La vie en abondance que Jésus est venu nous accorder. Jésus, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Mais attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent là. Oui, Jésus-Christ m'a donné la vie. Mais Satan, attendez, ce n'est pas fini. Je suis venu pour que vous ayez la vie, mais la vie en abondance. En abondance. La vraie vie, une vie bénie, une vie de victoire, une vie avec le Seigneur, une vie de grâce, de puissance, une vie où nous pouvons contempler sa beauté, ses merveilles. Une vie abondante. Une question. Est-ce que nous avons déjà vu tout ce que Dieu veut nous montrer? Est-ce que vous avez déjà vu tout ce que Dieu veut vous montrer? Ou vers quel domaine de notre vie le Seigneur aurait besoin d'ouvrir nos yeux? Frères et sœurs, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Un plan merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu fidèle. La Bible dit que ses fidélités vont jusqu'aux nues. Il est un Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il est le Père des miséricordes. La Bible dit qu'il est un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est un Dieu de grâce. La Bible dit où le péché abondait, la grâce a surabondé. La Bible dit que Dieu est un Dieu du pardon. Dieu est merveilleux. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Il est merveilleux. L'ange de l'Éternel est apparu à Manoah, le père de Samson. Et Manoah, le père de Samson, a dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel lui a dit, « Mon nom, pourquoi veux-tu savoir mon nom ?» Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Vous savez que vous avez un Dieu merveilleux? Connaissez-vous vraiment votre Dieu, le Dieu que vous avez? Un Dieu merveilleux? Un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé par sa parole. Par sa parole, il a tout créé. Il a dit que les choses sont apparues. Quel Dieu puissant, quel Dieu glorieux, quel Dieu merveilleux. Quand je n'ai pas de mots pour dire, pour bénir Dieu, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui, Dieu est merveilleux. Et parce qu'il est merveilleux, il a un plan merveilleux pour vous. Connaissez-vous ce plan-là? L'avez-vous vu? Est-ce que vous avez déjà vu ce plan-là? Connaissez-vous ce plan-là? Frères et sœurs, c'est l'heure de revenir à Jérusalem. C'est l'heure d'ouvrir nos yeux. La Bible dit que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ne voulons-nous pas que ce matin, nos yeux soient ouverts pour connaître le projet de Dieu pour notre vie? Frères et sœurs, ça serait dommage de passer à côté de tout ce que Dieu veut vous montrer. Il a des choses merveilleuses à préparer pour vous, depuis l'éternité, parce qu'il vous aime tellement. Il vous aime tellement, il veut que vous voyez les choses merveilleuses qu'il a préparées pour vous. C'est dommage de passer à côté de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Quand est-ce que nous allons ouvrir nos yeux? Quand est-ce que les années passent, et chaque année, bientôt, une nouvelle année qui va démarrer, et ça continue pareil, on ne change pas, on ne goûte pas de cette vie abondante, on n'ouvre pas nos yeux, on ne connaît pas ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, c'est dommage, vraiment, de passer à côté. Je vous dis franchement, avec tout mon cœur, c'est dommage, ne passez plus à côté de ce que Dieu a préparé pour vous. Oui, nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Un chemin. Nous avons quitté l'Éden, alléluia, à travers la conversion. Nous avons quitté l'Éden et nous sommes en marche vers Jérusalem. Mais au milieu, il y a Emmaüs. Le moment de doute, le moment d'épreuve, le moment de difficulté où on ne voit plus rien. Nos yeux sont appesantis. On est trop terre à terre, On ne voit que nos problèmes, que nos difficultés, on travaille pour gagner de l'argent, pour acheter une voiture, acheter une maison, et on est là, on regarde vers le bas. Et Dieu veut nous montrer des belles choses, beaucoup, beaucoup plus grandes que ce que nous avons, ce que nous voyons. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses dont nous avons besoin, Dieu le sait, argent, voiture, maison, travail, toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Mais d'abord, demandez à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux te voir ta puissance, voir ta beauté, voir tout ce que tu as préparé pour moi. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. Prends pitié de moi, ouvre mes yeux. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mais, le petit bon revient à chaque fois, mais par-dessus tout, sachant que Dieu a tout fait pour que nous quittions Éden. Il a tout fait. Vous savez, il n'a rien ajouté, rien enlevé dans le salut. Il a tout fait. C'est pour ça qu'il a dit à la croix, tout est accompli, tétélestai. Tout est accompli. Il a tout fait pour que nous quittions Éden. Et il fera tout. Il fera tout pour que nous arrivions à Jérusalem. Il fera tout. Ah, que j'aime savoir que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Ah, que j'aime savoir. Tous les jours, je dis, Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre dans ma vie. Merci, continue, Seigneur, continue à travailler. Il y a du travail à faire. Continue, Seigneur, continue, façonne-moi. La Bible dit qu'il est à l'œuvre. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Saviez-vous que Dieu est à l'œuvre dans votre vie? Savez-vous? Il est à l'œuvre, parce qu'il vous aime, vous lui appartenez, et vous êtes son enfant, chéri, oh qu'il vous aime tant. Et donc il est à l'œuvre dans votre vie. Il ne vous abandonnera jamais, il est à l'œuvre dans votre vie. Oh quelle merveille, que j'aime. Oui, un texte qui a été lu tout à l'heure, vous voyez comme il est à l'œuvre. Et ceux qu'il a prédestinés, avant les temps éternels, quand rien n'existait encore. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il fait tout, alléluia, heureusement, parce que si ça dépendait de moi, c'est fini. Merci Seigneur que tu es à l'œuvre dans ma vie. Merci, tout est accompli, gloire à ton nom. Le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. Et David et ses enfants, ils ne les abandonnent pas. Les deux disciples d'Emmaüs, après avoir vu le maître et Seigneur mourir à la croix, ils furent découragés, tristes. Vous savez, ils pensaient que Jésus allait venir avec force, puissance, tuer tous les Romains, s'asseoir sur le trône. Non, après Jésus meurt, en plus, il meurt à la croix, comme un bandit, un brigand. Alors ils étaient tristes, découragés, déçus, ils ne comprenaient plus rien. Vous vous rendez compte, ils ne comprenaient plus rien. Jésus était mort. Celui qui avait ressuscité Lazare ne pouvait pas descendre de la croix et dire « Non, c'est moi le Seigneur ». Ils ne comprenaient plus rien, ils étaient confus. Mais Jésus ne les abandonne pas. Jésus ne les laisse pas avec leur déception et leur découragement. Il vient faire route avec eux. Il est patient, un Dieu d'amour. Il vient faire route avec eux. Et au moment de partir le pain, il va les rétablir. Et ouvrir leurs yeux pour qu'ils comprennent les choses qu'ils viennent de vivre. Quoi? Quelles sont ces choses-là? C'est-à-dire, le vendredi, pendant que ses disciples dormaient, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus priait. Jésus était à l'œuvre. Jésus priait et gouttelettes de sang coulaient de son front. Il a fait cela pour eux. Il a fait cela pour nous. Il a souffert terriblement. Il fut emprisonné, blasphémé, maltraité, battu, interrogé, abandonné. Il a fait cela pour eux, il a fait cela pour nous. Il fut crucifié, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, son côté gauche fut percé avec une lance. Il a fait cela pour eux, il a fait cela pour nous. En ce moment terrible de souffrance atroce, une voix retentit du milieu de la foule, Souvenez-vous, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais alléluia, alléluia, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait à cause d'eux et à cause de nous. Il est resté à la croix. Alléluia, alléluia. Le Père l'abandonna, le ciel s'assombrit. Il a encore le temps de pardonner ses malfaiteurs. Il crie, tout est accompli, rends son esprit et meurt. Il a fait cela pour eux, il a fait cela pour nous. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Pendant que les disciples d'Emmaüs discutaient entre eux, se demandant pourquoi Jésus les avait abandonnés, quittés, et pourquoi tout avait fini si tragiquement. Jésus était encore à l'œuvre. Jésus, juste après sa mort, la Bible dit qu'il descend en enfer pour prêcher aux esprits en prison. Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Non, ce n'était pas fini. Jésus était à l'œuvre, Jésus n'a pas été vaincu, il ne s'est pas arrêté. Juste après sa mort, il était à l'œuvre, il travaillait déjà pour eux, pour nous, pour nous. Au troisième jour, la Bible dit qu'il est ressuscité. Alléluia. La pierre fut roulée et la tombe devient vide. Là encore, il a fait cela pour eux, il a fait cela pour nous tous. Et aujourd'hui, il est au ciel, il intercède pour eux et pour nous. Il est à l'œuvre, Jésus n'est pas à la retraite comme moi. Non, il est à l'œuvre. Aujourd'hui, il est au ciel, il intercède pour nous. Il nous bénit, et quand il nous bénit, on voit les marques de ses mains. Voilà, je suis mort pour vous, or que je vous aime. Il intercède pour nous. Le diable fut vaincu et la libération du péché, du jugement et de la mort éternelle fut accordée à eux et à nous. Je voulais terminer avec une petite histoire de la Bible dans l'Ancien Testament. La Bible raconte dans le livre de Rois l'histoire du prophète Élisée et son serviteur Géasi. Donc Élisée, en fait, avait un serviteur, Géasi. Le roi de Syrie était furieux. Il voulait tuer le prophète Élisée. Parce que chaque fois qu'il avait en plein le roi de Syrie, le prophète Élisée, bien sûr, Dieu révélait ses plans au prophète Élisée, et le prophète Élisée dévoilait le plan à l'armée d'Israël. Et le roi de Syrie était furieux, il voulait tuer le prophète Élisée. Alors il envoie une grande armée pour assiéger la ville du prophète et le tuer. Le texte dit, le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent, encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Géasi, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourer la ville avec des chars, avec des chevaux, l'armée toute entière de Syrie. Puissante, très puissante. Et le serviteur Géasi dit à Élisée, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors Élisée pria et dit à l'Éternel, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux de Géasi, le serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de feu, de chevaux, de chars, des anges, l'armée céleste de partout. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu puissant, quel Dieu glorieux. Chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Faites cette prière tous les jours. Tous les jours. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, je veux te voir, je veux contempler ta bonté, je veux contempler ton plein merveilleux pour moi, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. Ouvre mes yeux, des fois nous sommes comme Géasi, je me mets à sa place, tous les problèmes, les difficultés, la maladie, les épreuves, l'argent qui manque, il faut payer ceci, cela, il faut travailler, la famille, et je ne vois plus rien, mes yeux sont retenus. Et Dieu a tellement de richesses, de trésors infinis, inépuisables, à nous donner, à me donner. Et on a comme le Géasi, oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et le Seigneur dit, Éternel, ouvre ses yeux. Alors, prions tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin, que notre dernière prière soit, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Mais, vous savez, Dieu a toutes ces choses-là à nous montrer pour nous, toutes ces choses. Mais pour pouvoir les contempler, nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Tant que nos yeux ne s'ouvrent pas, Dieu ne peut pas nous montrer ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Le cas de Gehazi, il ne voyait pas. Je termine avec ce beau verset qui dit, l'apôtre Paul dit, mais, là le petit mot qui revient, ah que j'aime ce mot-là, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses merveilleuses et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez ? Dieu a préparé des choses merveilleuses pour ceux qui l'aiment. Alors que Dieu nous bénisse afin que nos yeux soient ouverts et ainsi nous allons pouvoir contempler Christ ressuscité, l'armée céleste des dieux, les anges qui sont autour de nous, les richesses innombrables de son amour et aussi le projet qu'il a préparé pour nous tous dès l'éternité. Amen.